French Connection avec Marie-Ève Dumoulin pour tout savoir sur les activités culturelles francophones de Vancouver et ses environs, plus de la musique 100% francophone du Québec et d'ailleurs. With French Connection, you will discover everything about the French culture on CITR 101.9 FM.
French Connection is presented by Théâtre Le 16e. From October 20th to October 31st, Théâtre Le 16e presents Le Permettre, a dramatic play en français, but with English surtitles. For more information, visit their website, 16e.ca, or call 604-736-2616.
Et bonjour tout le monde et bienvenue à French Connection sur les ondes de CITR 101.9 FM. Mon nom est Marie-Ève Dumoulin et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 5 heures. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous n'avez pas eu trop froid. Les températures d'automne se rafraîchissent de jour en jour, mais j'espère que vous appréciez la saison. Donc aujourd'hui, une excellente émission à French Connection, beaucoup de choses pour vous. Et je vous rappelle que French Connection est rediffusé toutes les semaines, rediffusé sur les ondes de CHLY 101.7 FM à Nanaimo. Donc, je dis bonjour à la communauté francophone là-bas. Et aussi, French Connection est diffusé sur les ondes de CJSF 90.1 FM. Les gens de Burnaby, donc je vous dis allô aussi. Et aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, une émission très chargée. Je vais faire un retour sur les films que j'ai vu durant le VIF Festival, donc des films majoritairement en français que j'ai vu bien sûr, mais aussi d'autres films parce que je ne ferai pas ce retour tout seul. J'ai un ami avec moi en studio qui est en train de se préparer. Oh, il est déjà prêt à parler. Il veut tout le temps parler. Bon, attends, je vais ouvrir son micro. Bonjour Emmanuel.
Bonjour tout le monde.
Emmanuel, j'ai préparé une super belle entrée pour toi avec plein de qualités et plein de... Et là, non, tu voulais dire allô tout de suite. Mais je vais refaire ton entrée tantôt. Okay, c'était juste un petit coucou que je voulais dire.
J'attends avec impatience.
OK. Alors, oui, on va parler des films ensemble, des films francophones, mais aussi internationaux, parce que le VIF Festival était international cette année. Donc, un peu plus tard aussi à l'émission, je vais passer une entrevue de Anne Dorval que j'ai réalisée cette semaine dans le cadre du Festival VIF. Elle a présenté le film « I Kill My Mother ». Elle était là durant le festival, donc j'ai eu la chance de l'interviewer. Et aussi, vers 4 heures environ, je vais interviewer Caroline Bottaro, qui est la director of the movie « Queen to Play ». Et vers la fin de l'émission, je vous parle du spectacle de danse « Paradis ». Et cette création, c'est « Musique, danse ». Et je vais recevoir via téléphone le musicien de cette création, Emmanuel de Saint-Aubin. Et oui, deux Emmanuel aujourd'hui, et mon Dieu, ça sera pas drôle, il va falloir que je fasse la discipline. Alors, voilà une émission très chargée, j'espère que vous allez apprécier, et toujours de la très bonne musique francophone. Et on va commencer dès maintenant avec une superbe chanson de cœur de pirate, pardon, vous me la demandez tout le temps à chaque semaine, et elle est de plus en plus populaire au Canada anglais. Avec son premier album du même nom, Cœur de pirate, voici sa chanson « Ensemble ».
Yeah.
Alors, vous êtes de retour à French Connection et je vous invite aussi à joindre le groupe French Connection BC sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait pour être au courant de tout ce qui se passe en français en Colombie-Britannique. Alors, joignez le groupe Facebook, excusez-moi, French Connection BC sur Facebook. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Et si vous êtes au courant de French Activities ici, de French Events et que j'en ai pas encore parlé à la radio, vous pouvez toujours m'écrire par courriel, m'envoyer une petite note et me dire « Marie-Ève, parle de cet événement-là qui s'en vient ». Donc, vous pouvez m'écrire à frenchconnection.bc@gmail.com. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos French requests, vos demandes francophones, votre musique préférée. Ça va me faire un grand plaisir de la faire jouer, de les faire jouer à la radio. Donc, il nous a dit un petit coucou tantôt, on me dit un petit allô, mais j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir en studio mon ami Emmanuel Saint-Just. Il a été pendant plusieurs années reporter cinéma à Radio-Canada, à la télé comme à la radio. Il nous captive tout le temps, il nous charme tout le temps par ses grandes connaissances culturelles et par sa petite touche d'humour qui est propre à lui. Alors, c'est un grand privilège pour moi de l'avoir avec lui parce que c'est un modèle pour moi dans le milieu de la radio. Donc, allô Emmanuel.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va, et c'est aussi un plaisir très partagé. Merci pour l'invitation.
Et ça fait plaisir. Et ça te rappelle des souvenirs de venir à UBC parce que tu as étudié ici?
Oui, j'ai d'ailleurs étudié le cinéma. Ça fait déjà bien des années. Et j'ai un peu de difficulté ce jour-ci à me retrouver sur le campus. Mais on s'est quand même retrouvé à CITR.
Oui.
Ça n'a pas changé. Mais autour, mon Dieu, quelle révolution.
Oui, oui, tu as été à l'heure quand même. Et même à l'avance. Oui. Et ça, c'est surprenant
c'est
pour
très
toi.
Rare.
Et Emmanuel, donc, tu es ici pour parler du VIF Festival.
Oui. Okay. Oui, ça me fait plaisir d'ailleurs d'avoir été invité parce que c'est un, surtout cette année, le festival qui d'après moi était un peu plus tranquille que les années précédentes.
Ah oui?
Mais comme d'habitude, nous offre un éventail international des particularités cinématographiques et culinaires, si je puis dire, entre guillemets, du monde entier. Alors, je me suis gavée.
Ben oui. Alors, qu'est-ce qui a ressorti dans le festival pour toi cette année? Est-ce que tu peux y aller plus en détail?
Quelques thèmes assez intéressants. Le premier,
oui.
Il s'agit surtout, il me semble que ce festival met en vedette ou met sous le spotlight, si je puis dire, entre une nouvelle génération et la vieille garde du cinéma. La vieille garde du cinéma, pour moi, bon, ce sont des cinéastes internationaux assez connus. Ça va par exemple de Atom Egoyan jusqu'à Almodovar. Et Catherine Breillat, par exemple, du côté français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi l'impression d'une nouvelle garde qui est en train de se présenter
dans
le monde du cinéma.
Mm-hmm.
Et par contre, par exemple, nous allons en discuter un peu plus, Xavier Beauvois, qui a d'ailleurs eu un énorme succès pour son film « J'ai tué ma mère
oui. »,
mais aussi d'autres cinéastes qui vont même jusqu'à Israël, comme ce jeune cinéaste israélite qui a présenté ce film que j'adore, qui s'appelle Eyes Wide Shut.
Oh oui, tu l'as vu hier soir?
Que j'ai vu hier et c'est un excellent film aussi.
Oh oui.
Et troisième thème oui, que j'ai aussi vu dans le cinéma, c'est une expo dans ce festival, d'après les films que j'ai vus, et ne pensez pas que je suis pervers, c'est simplement c'est arrivé, c'est les choix des films que j'ai fait. Mais il y a aussi...
C'est drôle
aussi...
que ça soit donné sur cela, hein, ça l'a
non, mais ce que
ça.
J'ai remarqué aussi à travers ces certains films, et je vous jure, ça va de Israël jusqu'au Canada en passant par la France, une exploration et même le Danemark, une exploration de la sexualité ou disons des sexualités du monde d'aujourd'hui.
Wow, ça va être intéressant. J'ai déjà très hâte de t'entendre parler de tous ces films. Donc, on va retourner en musique pour le temps d'une chanson et après, on va scruter à la loupe. On va voir c'est quoi tes coups de cœur et tes coups de masse. Hein? J'ai bien hâte de voir. Alors, on va revenir dans quelques minutes avec toi, Emmanuel. Alors, on va retourner en musique. On va écouter Jean Leloup avec une fille à la prison. Le voici.
Ne pense à toi, laisse-toi râler, dans sans te soucier de ce qu'il pense. Rôler. Personne ne va poser de jugement si soudain tu sens l'envie, le besoin urgent de bouger légèrement de côté au lieu de me watcher. Au lieu de féquer une contenance, sois game, laisse-toi aller, laisse-toi aller. que je danse. Toi tu réfléchis comment te positionner pour te donner bonne contenance. Ainsi tu vérifies quoi penser de moi auprès de tes amis pendant que je danse sous la pluie. Laisse-toi râler, laisse-toi râler, laisse-toi râler.
NGOs or the nonprofit sector want to teach in another country? How about a position in the commerce or engineering sector? Do you want to travel abroad and have a life-changing experience? Isaac UBC offers different internships for all kinds of specialties. We are looking for students interested in fields such as the HIV/AIDS pandemic, community empowerment, business administration, education, environment, and sustainability, and much more. If you're interested in working abroad or helping out on campus, please contact ubc.aiesec@gmail.com. That's ubc.aiesec@gmail.com. It's up to you.
Are You Aware presents Vancouver's third annual Music for Change. Come out to party with Catlow, The Wintermits, Piper Davis, and DJ Blondtron as they rock out in support of Oxfam's campaign for women's rights and climate change. Saturday, October 17th at the Biltmore Cabaret. Doors are at 6 p.m. Get there early as the show starts at 7. Curfew is 10:45. Tickets are available from Zulu Records, Scratch Records, Red Cat Records, or online at clubzone.com.
Stop. Collaborate and listen.
C'est un texte qui s'appelle Ma tête, mon cœur et mes couilles. Ouais. Est-ce qu'il y en a quand même 4 qui ne le connaissent pas? Ouais. Merci. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme 3 leaders qui essaient d'imposer leur loi. Cette lutte interne permanente est la plus grosse source d'embrouille. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous, si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups. C'est à cause de ce combat qui s'agite dans notre corps. La tête, le cœur, les couilles discutent, mais ils sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge, toujours prêt à s'ouvrir, mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas, putain ma tête me casse les burnes. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disaient à ma tête qu'elle a pas de cœur. Et quand mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur. Moi, mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut. Et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud. Et si ma tête part en couilles, pour mon cœur, c'est la défaite. Je connais cette histoire par cœur, elle n'a ni queue ni tête. Moi, les femmes, je les crains. Autant que je suis fou d'elle. Vous comprenez maintenant pourquoi chez moi c'est un sacré bordel. J'ai pas trouvé la solution. Ça fait un moment que je fouille. Je resterai sous le contrôle de ma tête, mon cœur et mes couilles.
On se la pose, on se retrouve dans 10 minutes. Merci beaucoup.
Vous êtes de retour à French Connection. Je suis toujours en compagnie de mon superbe invité, Emmanuel. Emmanuel, c'est pour toi que j'ai fait jouer Grand Corps Malade, Ma tête, mon cœur et mes couilles. J'ai essayé de faire une thématique aujourd'hui.
Je crois qu'on va un peu trop loin, d'accord, pour le moment.
Non, ok, revenons.
On va retourner sur le cinéma,
oui.
Le sujet qui nous intéresse.
Ben oui, c'est sûr. Alors, et pour être fidèle à nous-mêmes, en tant que francophones, on va commencer avec nos films français. Donc, les films en provenance de France qu'on a vus. Donc, on a vu Le Prophète ensemble. Alors, c'est un film qui a été réalisé par...
Un film de Jacques Audiard.
Okay.
Et il faut rappeler aussi que la sélection française Spotlight sur la France, qui est parée chaque année d'ailleurs au festival, est assez intéressante cette année parce qu'il y a des films moyens, des films un peu mineurs que je trouvais qui n'auraient pas dû être dans le festival et pourtant d'extraordinaires découvertes.
Oui.
Donc, en parlant d'extraordinaires découvertes, nous pouvons peut-être tout de suite présenter le nouveau film de Jacques Audiard.
Oui.
Jacques Audiard qui avait son nouveau film Un prophète. Et il faut dire que Jacques Audiard, si ça rappelle quelque chose à certaines personnes, certainement pas votre génération, c'est quand même le fils de Michel Audiard qui fut l'un des dialoguistes et cinéastes les plus, si je puis dire, les plus demandés dans l'histoire du cinéma français dans les années 50 et 60.
Okay.
Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu un genre de cinéma de papa, vous savez, avec une belle équipe quand même, des gens qui sont restés de grands acteurs comme Lino Ventura, etc. Mais Jacques Audiard lui-même, son fils, qui a d'ailleurs commencé sa carrière de réalisateur très tard, à 40 ans.
Oh, oui.
Et donc c'est le cinquième film. Mais on le connaît ici à Vancouver parce qu'on a vu deux de ses films, imaginez-vous. D'abord, le premier film, c'était Sur mes lèvres. Il y a quelques années, je crois que ça mettait en vedette Emmanuel Devaux, qui était un petit thriller. Et surtout, il y a peut-être un an ou deux, on a adoré De battre, Mon cœur s'est arrêté, qui a aussi a été projeté bon quelques jours ici à Vancouver, mais quand même un énorme succès. Donc ce film là, donc Audiard, c'est déjà un grand nom dans le cinéma français. Et aussi, il faut dire qu'Un prophète, c'est une œuvre assez personnelle qui joue à la fois du côté américain, vous savez, du thriller, un film fleuve d'ailleurs qui dure presque 3 heures, mais aussi un film qui, d'après moi ou d'après certains critiques, rappelle l'ère assez intéressante et riche du cinéma français, et par contre, et surtout, un film de Jacques Becker qui, imaginez-vous, avait été tourné en 1959 et un classique chef-d'œuvre du cinéma français qui s'appelle Le Trou.
Ok.
Alors, l'histoire se passe dans un milieu carcéral de nos jours et met en, si je puis dire, en vedette, surtout en vedette, le jeune Malik, un jeune arabe de 19 ans. Superbement interprété par un acteur qu'on connaissait pas du tout et maintenant ça va devenir une grande vedette. Il s'appelle Tahar Mahim. Et Tahar Mahim qui soutient ce film sur ses épaules et qui, justement, comme je disais, l'histoire de ce jeune arabe illettré qui se retrouve en prison pour 5 ans et qui va, au bout de cette incarcération brutale, faire un apprentissage et une leçon de vie dans un monde absolument brutal et sans pitié. Donc la force de ce film pour moi, d'abord, c'est que Audiard transcende son sujet à travers sa mise en scène. Le caractère oppressant, vous savez, de ce milieu carcéral. D'ailleurs, je crois que ce film, au fait, aurait dû s'appeler Entre les murs. Vous savez, ce film qui avait gagné le Festival de Cannes l'an dernier, le film français.
C'est vrai.
Ça aurait été un titre excellent pour celui-là.
Mais est-ce que tu trouves que le titre était approprié pour ce film-là, Prophète? Est-ce que tu trouves que c'est un titre approprié pour le film?
Ah, justement, c'est qu'on essaie de voir quel est le rapport.
Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que je pose cette question.
Oui, c'est peut-être un des mystères de ce film aussi. C'est que, bon, on connaît dans le milieu, dans la religion et la culture arabique, l'idée de l'image du prophète. Vous savez, c'est quelqu'un qui vous guide. C'est un peu un parrain. Justement, un parrain, on parle de petite mafia aussi dans la prison.
Oui.
Et aussi un visionnaire. Et Tahar Mahim nous fait pénétrer dans ce personnage, vous savez, qui finalement va apprendre une leçon de vie, mais aussi une parabole. C'est aussi une parabole sur la liberté, et il va apprendre au cours de ces 5 années une sorte de une découverte de sa raison d'être, même si les moyens pris sont plutôt douteux et même parfois condamnables.
Ah, oh, oui, c'est vrai ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai c'est ça, je me demandais si le titre avait vraiment rapport avec l'histoire, parce que comme tu as dit, Manuel, ça traite de la mafia italienne surtout,
okay. Petite mafia corse,
Corse, c'est vrai,
mais,
aussi,
mais il faut dire aussi que ce milieu carcéral devient un peu le reflet de notre société, vous savez, d'aujourd'hui, avec racisme, violence, vous savez, tout ce qui en est. Alors c'est un peu une parabole aussi, à la fois sociale, peut-être même, si on disait, politique.
Oui, mais un prophète, c'est pas quelqu'un qui a des visions, qui est capable de voir, de prédire qu'est-ce qui s'en vient. Et comme on est dans le film, il prédit quelque chose.
Oui.
Mais ça, c'est
qui est d'ailleurs la plus belle scène du film.
Oui,
plus belles scènes.
Oui, exactement. Mais c'est seulement une scène, et c'est pas vraiment qu'est-ce qui fait le film, cette scène.
Mais, ce qui est intéressant, c'est que un grand film pour moi, c'est un film qui me tient cloué sur mon siège, et celui-là, comme je vous l'ai dit, est assez long, c'est un film fleuve, mais aussi un film qui laisse des coins, vous savez, d'ombre, d'obscurité, où tout ne nous est pas expliqué, vous savez. Donc, il faut dire que à cause de la violence de ce film, peut-être on ne voudra pas le voir deux fois, mais c'est un film qui ne se livre pas à la première vision. C'est un film qu'il faut savourer, vous savez. Et surtout, peut-être que je le reverrai, parce que finalement, le suspense, je sais comment ça finit maintenant.
Oui.
Mais il faut dire que à travers une bande sonore soignée, et aussi un excellent duo d'acteurs, je ne sais pas pas si vous connaissez cet acteur, je pense qu'il est scandinave, mais il travaille en France, qui s'appelle Nils Arestrup, qui, dans le rôle du parrain corse, lui donne un contrepoint extraordinaire à, Malik. Et il faut dire que quand même pour un jeune acteur comme Tahar, le jeter dans les griffes, vous savez, d'un acteur aussi fort et aussi préparé, aussi une présence physique, vous savez, au niveau de la voix, est quand même une gageure qui fait que le film va obtenir un excellent succès à voir absolument quand ça sortira sur nos écrans.
Oh, excellent. Et OK, parlons d'un autre film, parce que sinon on n'aura jamais le temps de faire tous les films, parce qu'on a trop de choses à dire pour chaque film qu'on a vu. Donc, l'autre film que tu as vu, c'est
dans la section Spotlight sur la France.
Français Villa
Villa Amalia.
Amalia.
Oui. Oui. Villa Amalia. Bon, ça, je pouvais pas résister.
Oui.
D'ailleurs, l'affiche du film, j'ai trouvé fort intéressante. C'est une femme tournée de dos, cette femme Isabelle Huppert, et qui regarde à l'horizon la mer, vous savez, et elle est juchée sur une montagne. Donc, c'est très graphique, et aussi cette grande espace, vous savez, de bleu, et ça m'attire. Alors, quand j'ai surtout vu que l'histoire, d'abord que le film, je disais que cette année, il y a beaucoup de, si je peux dire, des vieux cinéastes, pas vieux, mais des cinéastes
établis. Qui ont l'expérience.
Oui, oui. Qui ont l'expérience. C'est un film de Benoît Jacquot.
Okay.
Et Benoît Jacquot, bon, qui travaille dans le cinéma depuis peut-être au moins déjà 30 ans. Et aussi, il faut dire que le film met en vedette deux de mes acteurs favoris. Isabelle Huppert, bon, qu'on voit plus ou moins très souvent dans le cinéma, dans les salles ici à Vancouver, mais aussi Jean-Hugues Anglade, vous savez, 37 degrés 2 le matin, ça vous dit quelque chose? Le revoir quelques années plus tard, maintenant un homme qui a mûri, peut-être même, comme on dit en anglais, middle age. Et surtout, il faut rappeler que ce film a été tiré d'un roman de Pascal Guignard, et c'est une nouvelle, et c'est l'histoire d'une femme qui, une femme de certain âge, on ne dit pas un certain, mais on connaît des Isabelle Huppert quand même,
oui.
Qui un jour voit que l'homme avec lequel elle vit depuis 15 ans a une maîtresse, et qui systématiquement, cette femme qui a toujours qui a eu jusqu'à présent une vie de pianiste, une carrière de pianiste très très renommée avec beaucoup de succès, décide de tout abandonner, quand je dis tout, de changer de nom, de disparaître. Et ce voyage initiatique va l'amener un peu partout à travers l'Europe, d'abord la Suisse, ensuite la Magne, et surtout vers la fin du film, pour faire le milieu du film, s'installer dans cette petite île en Italie, d'où le titre du film Villa Amalia.
Oh, je comprends. Est-ce que c'est une histoire vraie?
Non,
okay, c'est juste la fiction.
Non, mais c'est l'histoire surtout d'une révélation, à vrai dire, c'est peut-être le contrepoint de l'autre film d'Audiard, mais c'est surtout des personnages ou une femme qui se cherche.
Okay.
Mais si on a peut-être l'impression des fois que son personnage peut être un peu solitaire, et même je l'ai vu avec un copain qui a trouvé ça un peu pathétique, pour moi, c'était pas pathétique. Au fait...
Toi, tu as aimé?
Moi, j'ai adoré parce que simplement, c'est une histoire qui nous concerne tous, quoi.
Oui.
C'est l'histoire d'une maturité. Le personnage joué par Isabelle Huppert, c'est un personnage qui se retrouve face à face à elle-même.
Okay.
Donc, face à face à elle-même, il faut bouger, il faut continuer. Alors, comment on fait? Peut-être en effaçant tout, y compris son passé.
Oh, que c'est beau! Juste entendre tes mots comme ça, je regrette de ne pas avoir vu ce film.
Il va peut-être revenir.
Oh non! Et je crois que tu as un troisième film que tu as vu de provenance de France?
Oui, alors troisième film, peut-être une petite déception aussi, parce que j'adore les films de Catherine Breillat, quel que soit ce qu'on en pense. Ce sont toujours des films assez controversés, parce qu'il y a toujours dans ces films un rapport des sexes, c'est encore une fois... assez intéressant. Dans son cinéma, la sexualité, c'est une sorte de battleground dans lequel les hommes et les femmes s'affrontent, et fort souvent, la femme devient victime d'un monde trop masculinisé, trop patriarche. Alors, quand j'ai vu qu'elle avait tourné, qu'elle avait choisi pour son nouveau film l'histoire de Barbe Bleue. De Barbe Bleue, on connaît l'histoire des contes de
Perrault.
Mais il faut dire que les contes de Perrault, c'est un peu comme les fables de La Fontaine, c'est toujours une histoire simple, mais jamais si simple, parce qu'il y a toujours du symbolisme et des trucs qu'il faut voir à travers, et que l'enfant ne peut pas voir, mais que, oui, en grandissant, en tant qu'adulte, on les voit,
on les comprend.
On les comprend.
Qui a un double sens.
Alors, l'histoire de Barbe Bleue, cet homme qui vit dans son château tout seul, cet ogre,
oui,
et qui marie des jeunes filles, de très jeunes filles, et qui, une à une, disparaissent pour une raison ou pour une autre. Bien sûr, ça m'a bien intéressé parce que je me dis que ça rentre très bien dans le contexte de ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, avec bien sûr des acteurs qu'on ne connaît pas.
Oui.
Et aussi, ce qui est intéressant, aussi, c'est un film qui a été tourné en Digibeta. Donc, je m'étais dit, ce n'est pas un film à grand budget, mais quand même, je m'attendais beaucoup à mieux de la part de Catherine Breillat. C'est un faux pas.
Mais comment ça que ce film, c'est une déception si elle a traité d'un classique? Souvent, on connaît l'histoire de Barbe Bleue, on fait « Oh, wow, ça me rappelle mon enfance, c'est une histoire que j'ai entendue », puis on le voit, puis c'est une déception. C'est comment qu'elle a tourné l'histoire? Ou c'est,
oui, c'est peut-être le fait qu'il y a deux histoires parallèles qui se passent dans ce film.
Ah oui, puis il y a Back and Forth.
Oui, donc, même s'il faut dire que les moyens Digibeta font quand même un film de visuellement fort intéressant, mais on peut voir que certaines scènes, d'ailleurs, bien sûr, une partie du film se passe dans les années 50 ou début 60, et bien sûr avec des flashbacks sur l'histoire de Barbe Bleue qui se passe au Moyen-Âge. Donc on peut sentir au niveau de la mise en scène que les moyens n'étaient pas là pour pouvoir faire un film visuellement plus riche. Mais aussi, d'un autre côté, la construction du film aussi devient un peu bavarde.
Okay.
Parce que c'est l'histoire de deux petites sœurs,
oui,
assez jeunes. La plus jeune doit avoir à peu près 8 ou 9 ans, et sa grande sœur qui doit avoir quelques années de plus, peut-être 10 ou 12 ans. Et les deux petites trouvent un jour, dans les années 50-60, je pense que c'était fin des années 50, dans le grenier de la maison familiale, un vieux conte, un vieux livre de Barbe Bleue. Alors, c'est la petite qui raconte à sa sœur l'histoire.
Ok.
D'accord. Et on va et on revient sur l'histoire originale et aussi cette narrative moderne. Ça finit par nuire au film. Bien que les actrices sont fort intéressantes, surtout Dominique Thomas, une belle découverte, je crois qu'elle a 15 ans, et sa petite sœur Lola Creton. Donc, comme vous voyez, ça nous fait rire, ce sont des noms que l'on ne connaît pas.
Okay.
Mais la dialectique de ce film tourne à plat, et la dernière scène est franchement ratée. Donc, il faudra attendre Catherine et la Catherine Breillat qu'on aime peut-être au tournant pour son prochain film.
Oui, et si les gens ne connaissent pas cette grande réalisatrice, peut-être, Emmanuel, tu connais tous les films que cette réalisatrice a fait.
Non, donc, elle est bien connue, au fait, ici, parce que la plupart de ses films ont toujours été...
Mais conseille-nous distribués. Un autre film d'elle que peut-être on pourrait voir, un de ses anciens films que tu as vraiment aimé.
C'est une biographie quand même, enfin, une filmographie qui commence depuis le milieu des années 80, pour ne pas dire 75, les années 70, parce que son premier film avait été réalisé en 75. Alors...
Okay.
Pour commencer, je vous présente, si vous voulez aller chronologiquement, parce que je veux dire, au niveau de sa carrière, ça se corse avec les années. 36 fillettes fait en 87 était quand même assez intéressant parce que ça racontait l'histoire d'une très petite fille, 14-15 ans, qui a une relation avec un homme dans la quarantaine, vous savez.
Elle traite souvent des sujets qui choquent.
Oui, toujours. Mais le sujet choc dans ses films va aussi jusqu'à, si je puis dire, la crudité de certaines scènes qui vont jusqu'à nous présenter des scènes qui sont quasiment, enfin pas quasiment, qui sont certainement que certaines personnes qualifieraient de pornographiques.
Oui, exactement.
Alors, deuxième film aussi, c'était Fat Girl, que j'ai beaucoup aimé, et dernièrement la dernière maîtresse, et surtout le film qu'il a fait connaître ici en Amérique, son grand succès de scandale, c'était Romance.
Oh, Romance. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce premier spotlight français. Donc, on va écouter une autre très belle chanson d'un artiste francophone d'ici, de Vancouver. Oui, ça existe, un musicien français de Vancouver, c'est Saint-Pierre, et avec sa chanson Promenade, le voici.
Je déambule crémazie, une cigarette entre les dents, les fenêtres ouvertes sur ma vie, que je traîne entre les passants, et je repense à mes 30 ans, aux enfants que je n'aurai pas, à ceux que peut-être j'ai déjà. C'est comme ça, ça m'arrive souvent, hein. Ça m'arrive. Et le je bifurque sur quartier, ma cigarette au bout des doigts. C'est bien, les bistrots sont bondés et les femmes sont aux abois. Je vais leur compter mes 30 ans et puis leur dire comme elles sont belles, que j'aurais aimé de temps en temps qu'elles se fussent appelées Isabelle. Isabelle. À la terrasse du Julie Gym, les cheveux tombant sur son dos, nos deux regards doux qui s'arriment, elle contemple seule ses photos. En 2 secondes, je m'imagine un regard tendre, un œil qui brille, la rue qui s'ouvre et qui m'invite. Je suis le gars, elle est la fille. Je joue celui au-dessus de tout ça. Et entre nous, plus qu'un trottoir et du courage que je n'ai pas. Je suis novembre, elle est le soir. Et je regrette ce que je ne suis pas et d'avoir traversé la rue. Je fixe le sol et je continue. Il y a longtemps que j'ai plus de cigarettes, je ne touche plus au pavé, la ville de plus en plus m'embête. Voilà, je sens sur les balcons les regards louches, mon pas pesant, pendant que d'autres me trouvent con. Je déambule en souriant, en souriant.
Alors, on est de retour à French Connection et j'ai en ligne avec moi Caroline Botaro, qui a réalisé le film Queen of Play. Alors, voilà. Bonjour Caroline.
Oui,
Botaro, ça va bien?
Ça va, je vous remercie.
Oui. Alors, est-ce que c'est votre première fois à Vancouver?
C'est absolument ma première fois. Je suis là depuis 2 jours et je trouve ça extrêmement agréable d'être ici. L'accueil est très chaleureux. Je rencontre que des gens sympathiques et voilà, je suis très heureuse d'être là.
Alors, Caroline Botaro, vous allez fermer avec votre film le Vancouver International Film Festival.
Absolument, demain soir, oui.
Demain soir. Et dans votre carrière, vous avez d'abord été scénariste. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la réalisation?
En fait, c'était le but. Le fait d'écrire des scénarios, c'était le passage, mon passage, en fait, pour arriver à réaliser. J'avais déjà réalisé 2 courts-métrages, dont un avec Nathalie Baye, il y a 10 ans. Et en attendant de trouver le bon sujet pour faire mon premier film, j'ai continué d'écrire des scénarios pour d'autres. Mais j'ai toujours eu envie de réaliser.
OK. Et alors, vous êtes une jeune réalisatrice et vous avez visé haut pour avoir dirigé Sandrine Bonnaire.
Oui, et Kevin Kline.
Oui. Alors, comment s'est faite cette rencontre?
Écoutez, dans le cas de Sandrine Bonnaire, c'est une longue histoire, puisque j'avais coécrit un film de Jean-Pierre Améris qui s'appelle « C'est la vie », dans lequel Sandrine Bonnaire jouait avec Jacques Dutronc. Et donc, j'avais rencontré Sandrine à ce moment-là. Et quand j'ai lu, en fait, le roman que j'ai adapté pour faire joueuse, j'ai tout de suite eu envie d'adapter ce roman et j'ai tout de suite pensé que c'était un rôle pour Sandrine. Et je lui ai raconté l'histoire très rapidement. En fait, Sandrine est la première personne à qui j'ai raconté l'histoire il y a 5 ans. Et elle était tout de suite enthousiaste et elle nous a accompagnés, le projet et moi, pendant tout ce temps. Et voilà. Et le film a été, en fait, écrit vraiment spécialement pour Sandrine.
Oh oui, donc elle a adoré aussi le scénario.
Elle a aimé d'abord l'histoire, oui. Et puis après, elle a suivi les, elle a lu à chaque fois les nombreuses versions du scénario qui se sont succédées. Et voilà, on avait envie de travailler ensemble, et donc voilà, tout ça a été vraiment conçu ensemble.
Ça a été un projet de combien d'années pour pouvoir réaliser ce film?
Et en fait, j'ai lu donc le manuscrit de Bertina Hendricks, qui est donc l'auteur du livre, qui s'appelle La joueuse d'échecs, qui était ma voisine de palier en fait à Paris. Donc je suis la première personne à avoir lu son roman, avant même qu'il ne soit publié. Et okay. C'était il y a exactement 6 ans, et j'ai tourné l'année dernière, donc il a fallu 5 ans entre le moment où j'ai lu le manuscrit et le moment où je me suis retrouvée en Corse sur le tournage.
Wow! vous avez reçu de très bonnes critiques en France, et maintenant vous avez l'honneur d'être le film de clôture du Vancouver International Film Festival. Comment vous vous sentez face à ce succès?
Bien.
Oui.
Non, c'est très agréable. Et puis surtout, le film est sorti aussi au Québec fin août, et il est sorti début août en France. Et effectivement, j'ai eu des retours, pas seulement de la critique, parce que c'est important la critique, mais ce qui me touche beaucoup, c'est quand je rencontre des gens qui ont vu le film dans les salles, et des gens d'horizons très différents qui sont très touchés par le film, et c'est ce qui me fait le plus plaisir.
Oui, c'est quoi leur réaction habituellement des gens dans la salle?
Les gens sont très touchés par le parcours en fait de cette femme qui est d'origine simple, enfin qui vit dans un milieu modeste, qui a une vie un peu monotone, un quotidien un peu monotone au début, et qui le jour où elle se prend de passion pour les échecs transforme sa vie. Elle a, voilà, c'est l'épanouissement d'une femme par le biais d'une passion. Et voilà, c'est ce parcours de femme qui me touche et qui touche apparemment aussi les gens. Donc,
Juste pour revenir un peu sur les acteurs, on a parlé tantôt de Sandrine Bonnaire, mais pourquoi avoir choisi Kevin Kline?
Alors Kevin Kline, c'est venu plus tard, c'est venu quelques mois avant le début du tournage, où tout d'un coup, moi j'aime beaucoup le cinéma américain, et donc ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis petite. Je pense qu'on peut difficilement dire qu'on aime le cinéma sans aimer aussi bien sûr le cinéma américain. Mm-hmm. Et un jour, moi j'ai l'habitude de passer d'une langue à l'autre, puisque j'ai des parents, j'ai une maman allemande et un papa italien, et ça, et donc j'avais envie que ce personnage ait un accent déjà. Okay. Et puis j'ai dit à mes producteurs, pourquoi pas un acteur américain? Et on s'est renseigné de savoir qui parmi les acteurs américains pouvait parler français, et on nous a dit Kevin Kline parle français. Et moi, ce jour-là, j'étais comme un enfant à Noël. J'ai dit Kevin Kline, mais j'y croyais pas, je pensais que c'était pas possible. Et en fait, il a un agent Kevin à Paris, qui a lu le scénario en 24 heures, qui a adoré le scénario, qui l'a fait passer à l'agent américain, qui l'a lu en 24 heures, qui a beaucoup aimé aussi. Et 3 jours après, en fait, Kevin Kline m'a téléphoné chez moi. Je me souviens, il était minuit à Paris. J'étais déjà couchée et j'entends « Allô, c'est Kevin Kline à l'appareil ». J'ai cru que je rêvais. Et en fait, il m'a dit c'est le plus beau scénario que j'ai lu depuis 10 ans. J'ai beaucoup d'admiration pour Sandrine Bonnaire et je serais très heureux de venir. Et 2 mois plus tard, il était avec nous en Corse sur le plateau.
Oh, wow, quelle belle histoire. Ouais. Et c'est quoi la place des cinéastes féminines en France? On a vu Anne Fontaine, Bria et aussi Claire Denis.
Ouais.
Alors, c'est quoi la place? Est-ce qu'il y en a de plus en plus?
En fait, il y a énormément de femmes réalisatrices en France. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais effectivement, en France, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont réalisatrices.
Ouais. Est-ce que vous continuez à promouvoir votre film Joueuse, ou vous êtes déjà sur un autre projet de film?
C'est les deux en même temps, puisque là, je continue de promouvoir Joueuse. Qui est un film auquel je tiens beaucoup et que je continuerai de promouvoir autant qu'on me le demandera. Mm-hmm. Et en parallèle, je commence à écrire mon deuxième film.
Wow, ben vous êtes occupée.
Voilà, je suis occupée.
Alors, on va inviter les auditeurs ici de la station de radio CITR à aller voir le film de clôture, votre film, Joueuse, Queen of Play. Queen to Play, excusez-moi. Yeah. Le 16 octobre, donc demain soir à 7h ou à 10h15 p.m.
Voilà, et je crois qu'il y a une autre projection encore samedi soir à 21h.
Samedi soir à 21h. Voilà. Oui, une séance additionnelle.
Voilà,
okay.
Une séance additionnelle.
Parfait. Mais merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous.
OK, au revoir.
Au revoir.
Alors, merci. C'était Caroline Botaro du film Joueuse, Queen to Play, et qui est présenté demain comme film de clôture du VIF Festival. On va faire une courte pause et on va revenir avec notre co-animateur du jour pour pour voir les hauts et les bas du festival cette année, du VIF Festival. On revient avec Emmanuel après la pause.
CineWorks Independent Filmmakers Society presents a series of cinematic salons with Vancouver International Film Festival artists between October 4th and 15th.
In its 15th year, Meet the Filmmakers is about the realization of ideas and the revelation of process.
These informal and insightful panel discussions with filmmakers attending the festival provide an opportunity for the festival audience to engage in meaningful dialogue with the visionaries of modern cinema.
Meet the Filmmakers is brought to you by CineWorks, the documentary organization of Canada BC Chapter, and the Praxis Center for Screenwriters and Women in Film and Television.
Salons are free. Just bring your love of film and prepare to be inspired. Visit cineworks.ca for up-to-the-minute information.
La débauche et la mort sont deux aimables.
Vous êtes de retour à French Connection. Vous êtes toujours en compagnie de Marie-Ève Dumulon et je suis toujours avec mon invité Emmanuel Saint-Just. Est-ce que c'est juste?
Ouais, tout à fait, j'essaie de l'être en tout cas. Je suis de la balance, donc j'essaie d'être juste.
Oh, c'est bien, c'est bien. Alors, je laisse sortir mon humour, mon grand sens, mes grandes blagues ici à French Connection. OK, donc Emmanuel, maintenant, On va faire un tour côté cinéma canadien dans notre pays. Alors, que penses-tu de notre cinéma?
Bah, il faut dire que c'est aussi une belle représentation cette année d'un peu ce qui se passe, un peu partout à travers le pays. La Colombie-Britannique a présenté des films intéressants. 65 Red Roses, une sorte de moitié documentaire, moitié fiction. Il faut dire aussi, de notre côté, il faut souligner le film Call du cinéaste Carl Bessay, qui est aussi un cinéaste connu. Justement, je parle de nouvelles vagues, d'anciennes vagues, enfin pas anciennes, oui, disons, de vagues classiques pour être gentil. Je continue comme ça à regarder ce programme assez fort intéressant. Et puis aussi de Red Rooster, c'est celui-là que je cherchais, de Terry Miles, qui justement est un jeune cinéaste. Donc il y avait un peu de tout.
Oui.
Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était, aussi concerné, c'est le nouveau film de Atom Egoyan, qui est un cinéaste établi.
Oui, c'est la vague classique, comme tu disais un peu plus tôt.
Exactement, la vague classique bien établie. Oui. Et il faut dire que, personnellement, j'ai eu des problèmes avec les derniers films de Atom Egoyan. J'ai trouvé que Ararat, par exemple, c'était un film surchauffé, un peu trop ambitieux, et qui n'arrivait même pas à la cheville des ambitions du cinéaste. Mmh. Il faut dire, je ne suis pas contre Egoyan. Au contraire, j'ai trouvé que Egoyan nous a donné des films superbes à ses débuts, justement, quand il avait très peu d'argent et qu'il était pas méconnu, mais pas tout à fait connu. Je me souviens par exemple de ses premiers films, The Adjuster, et aussi un film très peu connu de lui qui s'appelle The Calendar, un calendrier, qui était vraiment une expérience cinématographique fort intéressante. Donc, quand j'ai vu ce nouveau film qui s'appelait Chloé et qui mettait en vedette, Liam Neeson et surtout Julianne Moore, j'étais fort curieux de voir ce qu'il allait en faire.
Pourtant, je voulais absolument le voir.
Oui, mais j'avais quand même une question principale me revenait à la tête quand je me suis rendu compte que c'est un film qui est une reprise ou un remake, comme on dit, d'un film français de Anne Fontaine qui s'appelle Nathalie.
Okay.
Alors Nathalie, on l'a vu d'ailleurs, on a eu de la chance de le voir ici à Vancouver, un coup de vent, il n'a duré qu'une semaine, mettait en vedette Fanny Ardant, Gérard Depardieu et Emmanuel Béart. Un très joli film, un très beau film d'ailleurs, un peu dans le genre petite musique de chambre, sur l'histoire d'une femme, une bourgeoise, qui pense que son mari la trompe, et qui engage une jeune call girl, on dirait pas prostituée, mais call girl c'est un peu plus sophistiqué, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça se passe dans un monde très sophistiqué, et qui engage cette call girl pour séduire son mari et lui rapporter dans tous les détails les détails de leur rencontre. Ce qui faisait la beauté du film de Anne Fontaine, c'était cette extraordinaire subtilité et un jeu d'acteurs franchement épatant. Donc, jeu d'acteurs ici, on a quand même Liam Neeson, mais il faut dire que quand même, vous savez, dernièrement, ce qui s'était passé avec la femme de Neeson, Miranda Richardson, est morte justement tout à fait par accident durant le tournage de ce film pendant qu'il était à Toronto, vous savez, il y a quelques mois. Alors, je me demandais un peu comment ça allait affecter, son personnage. Il faut dire que c'est une déception. Parce que je me suis dit, d'abord, en regardant ce film, pourquoi avoir fait ce remake ? On peut voir que dans le sujet même de ce film, il y a certains thèmes qui sont caractéristiques du cinéma de Atom Egoyan qui reviennent, comme par exemple la double personnalité, la recherche de la quête de soi, vous savez. Mais il faut dire que ce film tourne à plat. Et ce qui faisait la beauté du premier film d'Anne Fontaine, Nathalie, c'était un extraordinaire, un jeu subtil et aussi un scénario très subtil dans lequel, à la fin du film, toutes les questions sont posées et ne sont pas répondues. Le film d'Atom Egoyan va trop loin. Mmh. Il devient beaucoup plus explicite, même dans le dialogue quand même assez cru, parce que le premier film, ça passe dans un milieu bourgeois français, donc tout est assez voilé, vous savez comment ça se présente. Oui. Dans son film, Julianne Moore, qui joue le rôle de Catherine, l'histoire se passe à Toronto, et Catherine est gynécologue, vous savez, donc dès les premières images du film, la première scène, il y a une certaine crudité, si je puis dire, au niveau du dialogue, qui n'était pas dans le premier film. Il faut dire aussi que Amanda Seyfried, qui est la nouvelle nouvelle découverte qui allait plutôt l'air d'une top modèle avec son visage très à la Madonna, mais je veux dire la Madone, pas la Madonna, vous savez, pas oui, cette oui. Madonna. Le visage de Madonna et aussi ses grosses lèvres font plutôt, vous savez, font plutôt fashion. D'ailleurs, ça se passe dans un monde très fashionable à Toronto. Et encore, ce décor prend trop de place dans le film. Et ce qui m'a surtout ennuyé, et j'étais d'ailleurs avec un ami qui avait aussi vu Nathalie, un anglophone qui avait adoré le film, c'est pour ça qu'il était très curieux de voir le film d'Atom Egoyan.
Il a été déçu aussi.
Il était abasourdi parce qu'il me demandait, mais pourquoi avoir tourné ce film, vous savez, qui est d'une pour avoir tourné cette histoire, cette subtile histoire dans une sorte de remake de Fatal Attraction. Voilà ce qu'il a fait. Film qui était d'une extraordinaire beauté, enfin un film d'une histoire, vous savez, qui était une extraordinaire beauté, il va trop loin. Et ce qui reste finalement, c'est un film qui explose en plein milieu et on se demande mais pourquoi avoir fait ce film maintenant.
Bon, alors ça n'a pas été son meilleur film.
Non, il faut l'attendre encore au tournant. Et je lui donnerai une bonne chance la prochaine fois.
Ok, bon, il y a une deuxième chance. Ok, c'est bien. Une nouvelle vague maintenant du Canada, un nouveau cinéaste, c'est Xavier Dolan avec son film « J'ai tué ma mère, I killed my mother » qu'on a vu tous les deux, donc je vais pouvoir en discuter aussi. Et j'ai interviewé aussi Anne Dorval, donc on va l'entendre un peu plus tard à l'émission dans quelques minutes. Alors, ce film « Relation amour-haine entre un fils et sa mère », qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là?
Absolument épaté. D'ailleurs, le film qui avait été présenté dans la section Un certain regard, je crois, au Festival de Cannes, qui avait été très bien reçu, et aussi qui a gagné, je crois, un ou deux prix.
Oui, quelques prix pour en tant que réalisateur du film.
Exactement. Oui. Et il faut rappeler que ce réalisateur, mon Dieu, quand il a commencé ce film, il avait quoi, 17 ans?
Oui, il l'a écrit à 17 ans.
Il l'a écrit à 17 ans. Et un film, vous savez, qui joue sur... est-ce un autoportrait ou est-ce que c'est une portrait fiction.
Ouais, c'est comme une semi-autobiographie.
Exactement, et même dans sa manière de tourner, il faut dire que ce jeune cinéaste, scénariste et aussi producteur,
il avait tous les rôles.
Oui, c'est un peu notre Orson Welles du nouveau cinéma canadien, a une vision et une connaissance du cinéma, franchement, et aussi de la littérature extraordinaire.
Oui, en général, oui.
Okay, qui dépasse bien la vision de son âge. D'ailleurs, je crois que dans l'entrevue que vous avez avec Anne Dorval, elle en parle.
Elle-même, elle était impressionnée. C'est pour ça qu'elle a été attirée aussi du scénario. Parce que même si ça aurait été... elle dit quelqu'un de 40 ans avec expérience aurait pu écrire un film comme ça.
Oui, mais il faut dire que aussi son personnage, il joue lui-même, dans une certaine mesure.
Oui.
Plus qu'une certaine mesure. C'est aussi un personnage désespéré, vous savez, jusqu'à l'écœurement dans de l'univers petit bourgeois et dans lequel il évolue. Alors, tout ce qui a rapport avec sa mère, même physiquement, et aussi dans le décor de la maison, les cœurs, vous savez, sa manière de manger, de mâcher, le choix qu'elle fait pour un lampadaire dans la maison, vous savez, ces zèbres qui rappellent cette peinture de tigre, vous savez, de velours qu'il y a dans le salon, qu'elle adore aussi. En fait, ce qu'on dit au Québec, c'est très quétaine.
Oui.
Et c'est un monde dans lequel il ne veut pas pénétrer et auquel il se bat. Et cet amour-haine, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe entre mère et fille, mais moi je me souviens, j'ai aussi eu des rapports très forts et aussi très combattants ou combatifs, je ne sais pas ce serait le mot à dire, avec ma mère pendant des années et surtout à niveau de l'adolescence. Vous savez, c'est un peu essayer de couper le cordon ombilical quand on ne peut pas le faire, et c'est ça la beauté de ce film. Oui. Mais aussi, le jeune cinéaste a trouvé un moyen de pouvoir, à travers, vous savez, sa manière de filmer, sa mise en scène, qui est très précise, très drôle d'ailleurs, et aussi un côté documentaire dans lequel il parle à la caméra et exprime, vous savez, son écœurement pour ce monde qu'il méprise, mais auquel il ne peut peut-être pas tout à fait s'échapper.
Parce qu'il est comme un peu dans sa crise d'adolescence, il a 17 ans, puis et comme... comme on le dit, il a juste fait son Just Out of the Closet.
Okay? Oui. Donc, il venait... Justement, exploration de la sexualité des jeunes. Parce que, bon, en fait, dans ce film, il a 16 ans, vous savez.
Oui.
Oui, d'ailleurs, la mère lui dit, mais à 16 ans, pourquoi est-ce que tu veux déménager? Il n'est pas question, d'accord, tu restes ici.
Oui,
donc, sexualité des mineurs, mais présentée, vous savez, d'une manière sans sensationnelle, sans sensation, disons, une manière, comme disent les Anglais, matter of fact.
Oui.
Et c'est aussi son apprentissage de la vie, vous savez,
oui.
et aussi un rite de passage tout à fait différent du film d'Audiard, mais quand même un rite de passage quand même. Et c'est un très beau film, très lyrique. Vous allez rire, vous allez pleurer, ok,
oui.
Pleurer de bonheur, si je puis dire.
Ah oui, dans ce film-là, il y a quand même un sens de l'humour et un côté comique aussi au film, dans le rythme du film. Souvent, oui, ça touche la comédie à plusieurs niveaux. Et je veux juste mentionner aussi, Emmanuel, que ce film vient juste de remporter 3 Bayards d'or au 24e festival de Namur comme meilleure actrice pour Anne Dorval, qui joue une mère vraiment exceptionnelle. Ben, dans son rôle, elle est exceptionnelle. Et aussi, elle donne vie à cette mère qui a l'air monotone au début, comme je pourrais dire. Et ils ont gagné aussi un prix pour meilleure première œuvre du Festival international du film francophone de Namur et du meilleur film. Ils sont aussi dans liste pour représenter le Canada dans la course aux Oscars.
Oui. Alors, quel succès, vous savez,
oui.
pour un petit film, d'ailleurs, qui a eu des problèmes
financiers,
vous savez, en plein milieu, mais il faut dire que c'est une belle leçon de cinéma pour le Canada et surtout pour les jeunes cinéastes canadiens, parce que vous savez, ce film qu'il a tourné à moitié confession noir et blanc, c'était peut-être aussi pour sauver de l'argent, vous savez, j'imagine, quand il a son visage tourné vers la caméra, dans lequel il crie sa colère, vous savez. Et sa haine, c'est moins dirigée contre cette mère qu'il prétend morte d'ailleurs au lycée. C'était l'une des plus belles scènes du film. C'était vraiment, vraiment très drôle.
Mais une autre scène du film, une des plus belles scènes du film que j'ai aimée, c'est quand Anne Dorval, la mère, elle a une crise d'hystérie, comme au téléphone. c'est vraiment très fort son jeu.
Oui, alors c'est justement la scène où elle est excédée par, vous savez, les réflexions stupides, macho, du directeur du pensionnat, où elle envoie son garçon. Finalement, parce qu'elle en a marre, elle a dit, écoute, tu rentres au pensionnat, et que lui, quand il s'échappe, il lui permet de dire, vous savez, votre fils, il en profiterait s'il y avait une présence masculine dans la maison. Alors, elle laisse tout éclater, et d'ailleurs, elle nous a dit que ça a pris seulement 3 takes, vous savez, 3 prises pour réaliser l'une des scènes clés et vraiment qui nous montre aussi son extraordinaire travail d'actrice.
Exactement. Donc, on va l'écouter pour savoir ce qu'elle pense du film et comment elle a été aussi approchée par Xavier Dolan, qui l'a approchée à 17 ans pour dire qu'il fait un film et qu'il finance de sa propre poche.
Une très belle histoire.
Oui, alors, écoutons Anne Dorval.
Donc, je suis avec Anne Dorval pour l'émission French Connection. Merci, Anne, d'avoir accepté l'invitation.
Mais ça me fait très plaisir. Ça fait du bien de parler français à Vancouver.
Mais oui, est-ce que c'est votre première fois à Vancouver? Comment vous aimez la ville?
Oui, c'est ma première fois. J'étais jamais venue. Puis ça fait longtemps que je suis curieuse parce que tout le monde m'en parle. Tout le monde dit à quel point c'est beau et tout. Puis c'est vrai, je suis allée me promener à vélo ce matin dans Stanley Park. Et puis, mais
ici, dans le cadre de Vancouver International Film Festival pour présenter J'ai tué ma mère, I Kill My Mother, comme on dit ici. Et vous avez un des rôles principaux. Comment vous avez abordé votre rôle de Chantal dans le film?
Mais moi, je travaille toujours de la même façon. En fait, je lis le scénario, je lis. Puis quand je travaille au théâtre, c'est pareil. Je lis beaucoup, très, très souvent le texte à intervalles réguliers. Bon, je peux passer une semaine sans lire. Puis après ça, je peux le lire 4 fois dans la même semaine. Puis après ça, je laisse mariner. Puis j'y retourne. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que le texte fait partie de nous aussi. Et on crée un personnage parce que, bon, ce personnage-là a beau avoir été inspiré par la mère de Xavier Dolan, c'est une partie de sa vie à lui. Moi, je la connaissais pas, sa mère. Je l'ai croisée 5 minutes une fois, puis c'est tout. Puis c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Donc, à partir du moment où moi, je prends un rôle qui est écrit, je me fous de savoir si le personnage existe ou pas. On en fait un personnage de fiction, puis il y a des montées dramatiques qui sont nécessaires dans le film et qui n'étaient pas nécessairement là dans la vie. Donc, j'essaie de travailler à partir du texte que j'ai et puis de lire entre les lignes aussi, parce que il y a un rythme comique dans le film qui est très très présent pour alléger le tout, mais reste que entre chaque réplique drôle dans certaines scènes où le rythme est très très effréné, il y a certains silences qui parlent encore plus fort que toutes les lignes que je peux dire dans le film. Puis moi, j'ai essayé de lui donner une humanité malgré sa grande solitude et malgré la petitesse apparente au départ de ce personnage-là, parce que c'est assez limité, c'est pas quelqu'un qui est très très cultivé, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'horizons devant elle, c'est quelqu'un de seul et d'assez terre à terre. Mais j'ai essayé de lui donner une humanité quand même. C'est une mère, j'en suis une, alors j'ai essayé de lui donner un peu plus d'épaisseur. Ouais.
Comment ça a été de se faire diriger par un jeune de 20 ans? Mais un jeune de 20 ans, pour moi, il n'y a pas d'âge. Quand on est intelligent et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait pourquoi on fait les choses, il n'y a pas d'âge. Ce scénario-là aurait pu être écrit par quelqu'un de 40 ans, je l'aurais trouvé aussi bon. C'est pas parce qu'il y a 20 ans que je le trouvais too much que j'ai accepté de le jouer. C'est parce que c'était bon et il savait tellement ce qu'il voulait. Il a tellement fait ses devoirs. Il était tellement rigoureux dans le travail que... Et c'était son histoire aussi, donc... Oui, c'était facile, oui, puis c'était très agréable. Oui.
Moi, je veux savoir aussi comment vous avez réagi quand un jeune de 19 ans vient vous voir et dit « Ah, j'ai fait un scénario et j'aimerais ça que vous jouiez dans le film. » Et puis, au début, il l'a subventionné avec son argent. Comment vous avez réagi quand il vous a approché?
Quand il m'a approché, il avait 16 ans. Il n'y en avait pas 19. On a tourné le film quand il avait 19. Okay. Il y a eu 20 ans cette année, là, juste avant Cannes. Alors, non, moi, il est venu me voir quand il avait 16 ans, puis je le connaissais pas, mais j'ai trouvé ça charmant. Je fais venir, on a écrit un scénario. Et puis, un jour, bon, il est arrivé chez moi avec son scénario. Et puis je me suis dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Une telle maturité pour un si jeune homme. Il était tellement articulé. Il a tellement vu de choses. Il a tellement une grande culture, ce garçon. Il a vu beaucoup. Il a vu tous les films. C'est un boulimique de culture. Il a lu beaucoup. Il lit de la poésie. Moi, je l'ai amené au théâtre. Il est toujours curieux de tout. Il veut tout apprendre. Et c'est très, très stimulant. Pour quelqu'un comme moi, d'un peu vieillissant, c'est vrai que ça nous bouscule aussi d'être en contact avec quelqu'un de si jeune et de tellement énergique. C'est très, très stimulant. Puis moi, ça m'aide aussi, ça m'aide à vivre des gens comme ça. Ouais.
Puis comment vous trouvez maintenant l'histoire, tout ce qui se passe autour de « J'ai tué ma mère, aller à Cannes », ça, est-ce que vous trouvez que c'est un vrai conte de fées?
Ben oui, c'est un conte de fées. Nous, on n'avait jamais. Moi, au moment où on le tournait, je me demandais même si ça allait être distribué un jour. Il n'y avait pas de distributeur, il n'y avait pas de producteur, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, là. Donc, c'est assez miraculeux. Moi, j'ai pensé, en le faisant, que ce serait un exercice. Je me suis dit, bon, ben, ça va rester dans son salon, ça ne sera jamais distribué. Puis, ça aurait été un exercice et c'est tout. Ouais, bon, hein, je. Alors, c'est sûr que la suite, ça, on n'en revient pas encore, là. Oui, c'est un conte de fées. Oh, absolument. Le tournage s'est arrêté fin novembre parce qu'il n'y avait plus d'argent. On ne pouvait plus continuer le film. Et là, il a refait une demande à la SODEC. Et c'est la SODEC qui a sauvé le film, en fait. Ils ont vu les premières images, puis ils ont dit « Parfait, c'est bon, on investit. » Et c'est grâce à la SODEC qu'on a pu terminer le film. Et ça s'est terminé en janvier. Et je me souviens, c'était toutes les scènes dans la maison de Chantal. On a tout fait ça dans la même semaine. Et c'était des journées. C'était vraiment une semaine de 7 jours. À tous les jours, on était de toutes les scènes et on a improvisé, on a réécrit certains dialogues. On s'est tellement amusés, là. On était vraiment en symbiose. C'était formidable.
Vous avez vraiment une grande carrière d'actrice. Vous avez participé à plein de projets, émissions de télé. C'est quoi, ça serait quoi maintenant votre prochain défi?
Tous les rôles sont des défis, en fait. On essaie toujours d'être le plus juste possible puis de respecter ce que l'auteur a voulu dire puis d'être en accord avec ce en quoi on croit aussi. Donc, mais bon, j'ai un projet de théâtre en 2011 et ça va être... Là, je ne peux pas en parler parce que c'est pas annoncé, mais ça va être un pas pire défi, ça, oui. J'adorerais écrire. J'adorerais écrire des dialogues. J'adorerais faire du montage, par exemple. Travailler dans l'ombre un peu plus, mais je suis très, très sensible au rythme des scripts ou des pièces de théâtre ou des scénarios. Et je trouve trouve que ici, on n'a pas ça en Amérique, des dialoguistes. Ce qu'on trouve beaucoup en Europe, et ça, j'aimerais ça beaucoup faire ça.
On parle du Québec. Comment que le cinéma québécois se porte en ce moment?
Au Québec?
Oui.
Mais je pense que depuis quelques années, quand même, il y a beaucoup de jeunes qui font des courts-métrages et qui s'organisent entre eux. Puis le cinéma indépendant aussi est en train de s'organiser parce que les jeunes sont en train de dire à tout le monde, on n'attendra pas des années. On écrit quelque chose, on ne peut pas attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans avant de faire notre film. Et c'est ce que Xavier a fait.
Moi, je suis née dans les années 80, alors j'ai été marquée par Chambre-en-Ville.
OK.
Lola, je voulais savoir ce qu'on vous en parle encore de Lola.
On en parle, oui, oui, c'est assez étonnant. Oui, on en parle encore, on dirait que dans la tête des gens, c'était hier, Lola. Puis je me disais, oh, quand même, ça... Il y a eu de l'eau sous les ponts depuis, mais...
Avez-vous commencé votre carrière? C'est Chambre-en-Ville qui vous a donné l'essence?
Ben, c'est Chambre-en-Ville qui m'a fait connaître du grand public, mais avant ça, je faisais surtout du théâtre. J'avais presque pas fait de télé. J'avais fait des téléthéâtres à Radio-Canada, des textes classiques, tout ça. Lorraine Zachio, Cyrano de Bergerac, des trucs comme ça. Mais vraiment, une continuité à la télé, c'était la première fois. Puis, bon, faut pas se leurrer, c'est ça qui nous fait connaître aussi d'un public plus large. Et c'est ce qui fait que, grâce à la télé, grâce à la popularité, ben, les gens se déplacent après pour aller au théâtre. Donc, moi, je trouve que c'est un beau retour des choses, quand même.
Ouais, merci beaucoup, Andorval, d'avoir participé à French Connection.
Mais merci à vous.
French Connection est une présentation du Théâtre La 16e. Pour leur 35e anniversaire, Théâtre La 16e vous présente la pièce dramatique Le Périmètre, du 20 au 31 octobre. Pour plus d'informations, visitez leur site internet 16e.ca ou téléphonez au 604-736-2616. Théâtre La 16e, votre théâtre incontournable.
Apostle of Hustle featuring Andrew Whiteman of Broken Social Scene will be on tour this October with Go Go Bordello. Their latest Eats Darkness is an album of raging sound from playful to surreal, vibrant to dark. Exclaim magazine describes Apostle of Hustle as a band with an insatiable musical appetite from every corner of the world's consciousness. Catch them live in concert with Go Go Bordello this October. For more information and free music downloads, visit apostleofhustle.com.
Easy speaks to me.
Brittany!
Hit me, baby, one more time!
Xtina!
What a girl wants, what a girl needs, whatever makes me happy sets you free.
Mariah! CITR, where you'll hear none of those divas. CITR 101.9 FM, where the only divas you're likely to hear are... Kathleen!
Suck my left one!
Diamanda! Lydia!
Would somebody please inform the U.S. government that my uterus is not open to public debate.
CITR 101.9 FM, your true diva station.
Alors, vous êtes de retour à French Connection et j'espère que vous appréciez l'émission aujourd'hui. Donc, un spécial vif. On fait un retour, moi et mon invité Emmanuel Saint-Just, sur nos coups de cœur et nos coups de masse. Surtout Emmanuel, hein, y en a long à dire, mais Emmanuel, j'adore t'entendre parler de cinéma. C'est une de tes grandes passions?
Oui, ça le fut d'ailleurs.
Ça le fut.
Ça l'est encore en fait.
Oui, j'adore parce que tu as beaucoup de connaissances et ça m'impressionne et j'apprends en même temps quand je t'écoute. Alors, pour conclure cette belle émission avec toi, dis-moi, quels ont été tes coups de cœur de ce festival, VIF Festival 2009?
Ah ben, j'ai choisi deux cultures qui ne pouvaient pas être aussi différentes l'une de l'autre. D'accord. Et le premier, je suis allée en Israël.
Enfin,
pas tout à fait, pas pas physiquement.
Oui.
Mais j'ai découvert un petit film israélien qui d'ailleurs sortira sous le, en France, j'imagine au Québec ou en France, sous le titre Tu n'aimeras point.
Ok.
Et qui en anglais s'appelle, ça rappelle un peu Stanley Kubrick, Eyes Wide Open.
Oui.
Et nous parlons encore d'une nouvelle génération, et c'est le premier film, un film très sensible et subtil de jeune cinéaste Haïm Tabakman, et qui nous fait pénétrer dans le monde assez fermé, vous savez, des juifs orthodoxes en Israël. Donc on sait que c'est un à Jérusalem. On faisait que c'était un milieu religieux très strict, avec des codes très stricts. Mais ce qui pousse encore la provocation, c'est une histoire d'homosexualité ou de bisexualité, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui d'Israël. Alors, il faut dire aussi que ce film témoigne de l'extraordinaire et le surprenant réservoir, vous savez, de talent qui se passe maintenant en Israël. Et vous savez, il y a quelques semaines, il y avait ce grand tapage à Toronto sur le spotlight, oui, sur le cinéma israélien, qui avait créé beaucoup de, vous savez, de controverses avec des communiqués, des acteurs et des cinéastes qui se sont révoltés. Moi, j'ai trouvé que ça allait un peu trop loin, parce que c'est un cinéma auquel il faut prêter attention.
Oui.
Et ce que j'ai aimé dans ce film, surtout, c'est un film qui ne va pas avec le dos de la cuillère, vous savez, sur son histoire. Parce que cette histoire d'homosexualité qui rappelle peut-être un peu Brokeback Mountain,
oui,
entre un orthodoxe bien marié avec quatre enfants et qui se retrouve du jour au lendemain de tomber follement amoureux, vous savez, de Ezri, un jeune homme venu d'ailleurs, un étudiant qui vient étudier la Torah et qui, pour lequel il va tomber follement amoureux, et ça va déclencher, vous savez, toutes sortes de réactions négatives dans ce milieu clos. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout l'évocation, vous savez, des mœurs communautaires d'une société qu'on ne connaît pas. Et qui, justement, à travers ces dogmes religieux, a suggéré le corps.
Mmh.
Et il faut dire que c'est un film sur la chair. Et parce que le personnage principal qui s'appelle Aaron est un boucher.
Ok.
D'accord.
Oh.
Est un boucher.
C'est un jeu de mots.
Oui. En fait, il s'appelle Aaron Kasher, et Kasher, okay, c'est un boucher, vous savez.
Oui.
Je crois dans le
la viande kasher.
Oui. Alors c'est un peu, vous savez, un personnage entre le sacré et le profane.
Ok.
Et ce que j'aime dans ce film, c'est un parabole, vous savez, un film superbement épuré dans lequel à travers leurs codes, leurs petites habitudes, vous savez, et aussi leurs rites religieux, on pénètre dans la vie de ce monde et aussi dans la vie de ces personnages, et en plus on s'y attache sans mélodrame, vous savez, ça ne finit pas à la Brokeback, bien que la fin soit assez ambiguë, mais ce qui arrive, c'est qu'on y passe mon Dieu, presque 2 heures d'émotion contenue, et aussi un cinéaste qui sait très bien comment nous présenter, vous savez, ces milieux, l'exiguïté, vous savez, de cet espace à Jérusalem, dans ces petits quartiers avec leurs petites ruelles, et aussi les voisins qui regardent et qui nous observent tous, et aussi la codification, vous savez, de l'acte sexuel qui fait qu'on essaie de renier, vous savez, le corps, et si on renie le corps, on renie aussi peut-être l'âme. C'est ce qu'a voulu nous dire Haïm.
Est-ce que ce film a été accepté dans tous les pays? Est-ce que tu as fait des recherches? Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu voir ce film.
Il paraît qu'il a été même bien reçu en Israël, il a été finalement financé par le gouvernement et toutes les subventions, vous savez. Mais vous savez, juif orthodoxe, c'est encore un autre monde à part.
Exactement.
Je pense que,
Donc il n'y a pas eu de problème aussi à réaliser ce film, et il ne s'est pas fait mettre des barrières dans les roues à cause de son sujet.
Ça n'a pas été facile pour lui de tourner ce film, ça c'est sûr. Mais je crois que ce qui fait la force de ce film, c'est finalement de nous faire pénétrer dans un monde que l'on ignore ou qu'on voudrait ignorer, et que peut-être qu'il ne faut pas ignorer.
Et qu'on ne connaît pas beaucoup, et c'est quelque chose de nouveau aussi, et on voit qu'on évolue aussi d'année en année dans le cinéma et dans la société aussi.
Donc, alors, à ce moment-là, c'est un film politique.
Oh, ça revient tout le temps à ça.
Bien sûr, je l'avais dit au début.
Oui. Alors, et ton autre coup de cœur?
Mon autre coup de cœur, c'est un film que je ne peux pas nécessairement recommander à tout le monde.
Oui.
Mais c'est un film d'un de mes cinéastes fétiches. Il s'agit de Lars von Trier. Vous savez, ce cinéaste maudit.
Maudit cinéaste,
qui nous arrive du Danemark, et c'est une production entre le Danemark, la Suède, la France et l'Italie, et ça s'appelle The Antichrist, et un film qui avait été hué à Cannes à cause, du fait que le film va très loin dans cette exploration des relations entre hommes et femmes, ou des relations entre les sexes, ou cette guerre des sexes Lars von Trier met souvent en vedette dans ses films. Donc,
il traite tout le temps de relations hommes-femmes.
Pas toujours, mais on se rappelle quand même de Breaking the Waves. Vous savez qu'il avait tourné en 1996 et que certains disent qu'il restera son chef-d'œuvre. Celui-là, chef-d'œuvre ou non, c'est un film à voir.
Okay.
Parce que il faut dire que cette histoire d'une jeune femme jouée par Charlotte Gainsbourg, d'ailleurs, qui a reçu le Grand Prix à Cannes d'interprétation, elle le mérite parce que c'est un film dans lequel le personnage féminin va jusqu'au bout, vous savez, de sa folie, et aussi qui nous livre tout, vous savez, son âme et son corps.
Ça doit y avoir demandé beaucoup pour jouer ce rôle.
Oui, si vous avez l'occasion de le voir, j'espère que vous verrez quand même la version originale, parce qu'il paraît qu'il a quand même fait deux versions de ce film, parce qu'il savait qu'il y en a une qui va, faire scandale. D'ailleurs, le film vient de sortir en Angleterre et il fut question qu'on l'interdise, vous savez. On l'interdit encore des films de nos jours, c'est quand même pas croyable, mais en tout cas, il a passé. À Vancouver, il n'y a pas encore de date pour la sortie de ce film, mais c'est un film très riche, vous savez, et il faut dire que, si on accuse Lars von Trier souvent de misogynie, de façon à la manière dont il torture, vous savez, ses personnages féminins, c'est peut-être au fait l'opposé, c'est peut-être aussi parce qu'il en est fasciné, vous savez, et la femme, pour lui, c'est une fascination à la fois grave et sombre, à la fois belle et aussi noire. Mmh. Et ce film qui est un peu construit comme un film d'horreur, vous savez. Donc, au début du film, le couple perd un enfant. Et cette plongée dans la douleur, c'est aussi une plongée dans l'horreur que Lars von Trier va nous amener pour pouvoir dans une forêt, vous savez, une forêt qu'il appelle d'une manière plutôt allégorique de Garden of Eden, vous savez, le jardin de l'Éden, mais qui n'est pas un jardin ordinaire, mais plutôt un jardin d'horreur.
Oh, wow.
Sexuel.
Excellent. Oh, sexuel. Bon, alors on finit sur ça, Emmanuel. Sexuel. Emmanuel Saint-Just, merci beaucoup d'avoir été à French Connection aujourd'hui. Ça a été vraiment un agréable plaisir de te recevoir. J'espère que tu vas revenir.
Le temps a passé très vite. Laissez-moi savoir, je serai de retour quand vous voudrez.
Wow! Allez, on se laisse aussi sur la note en parlant de cinéma que Coco avant Chanel est présentement présenté à Vancouver.
Ça commence la semaine prochaine.
La semaine prochaine?
Oui.
OK, alors, faudrait...
Beaucoup plus léger, vous savez.
Oui, beaucoup plus léger, mais quand même, on veut le voir. On veut voir le film. Alors, merci beaucoup, Emmanuel. Ça a été vraiment un super plaisir de t'avoir ici. Et on va continuer en musique ici à French Connection, sur les ondes de CITR 101.9 FM. Et on va revenir pour cette dernière partie d'émission avec une entrevue avec Emmanuel Saint-Aubin, de Saint-Aubin cette fois-ci, qui sera au Scotiabank Dance Center ce soir et demain soir pour un spectacle danse moderne et bruit musical. Alors, je vous en reparle avec lui tout de suite après cette chanson du groupe The Lost Finger.
Get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, I'm a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make.
Pump, pump the jam, pump it up. While your feet are stomping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make, make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make.
Jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Bump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that.
Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, you'll find out if you do that.
Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make, make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make.
Reviens couper le ligament avant que les minutes ne fondent. Les amoureux deviendront diamants. Quand les soleils s'imprègnent du magnétisme des amants, ce sont les inquisiteurs qui craignent l'arrivée des nouveaux sentiments. Métamorphique, brûle aussi douleur maintenant. On peut nous joindre microscopique, des forteresses de diamants, puisqu'elles deviendront nos armures pour éblouir les dissidents. Pour nous, elles feront tomber les murs qui tiennent enfermés les sentiments. Sur la graine, ce qu'il me reste d'amour vivant, avant que les regards se lèvent, nous partirons sur l'océan. Quand les soleils s'éteignent entre deux corps amants, c'est le
Alors, vous êtes de retour à French Connection et j'ai en ligne avec moi Monsieur Emmanuel de Saint-Aubin, car ce soir et demain soir au Scotiabank Dance Center est présenté le spectacle Paradis, un duo danse-musique électrifiant avec le bruitiste français Emmanuel de Saint-Aubin. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Bien, bien, plutôt pas mal, oui, merci.
Oui, est-ce que c'est...
Excité par, par le spectacle ce soir?
Oui.
Oui.
Et est-ce que c'est votre première fois à Vancouver?
Non, non. On a déjà donné la pièce, le spectacle Paradise,
oui,
avec la compagnie Rasga, Roundhouse Center.
Oui. Ok.
Et je dirais dedans et dehors. Et la dernière fois, c'était dehors en juillet dernier.
Oh oui. Ok. Ouais. Et comment est né Paradise ou Paradis?
Il est né sur la rencontre du chorégraphe Alvin Rasga.
Oui.
Qui m'a commandé. Une heure, qui voulait se lancer dans un solo d'une durée d'une heure, avec un musicien live qui fabriquerait, je dirais, la bande originale en direct, ce qui est une partie de mon métier.
Oui, et j'ai vu un extrait sur YouTube,
mmh, hein,
on peut voir un extrait, et je l'ai regardé, et c'est ça, vous créez des bruits tout,
oui,
au long de la pièce, des bruits assez étranges.
Oui,
même.
C'est vrai, j'utilise une guitare préparée, c'est-à-dire que j'utilise une guitare électrique, mais pas de manière conventionnelle. Okay. J'utilise les micros, la guitare et un certain nombre d'objets pour en sortir du son, des bruits, des ambiances, des couleurs que je sample, que je boucle en direct.
Oh, et qu'est-ce qui vous inspire pour trouver ces bruits? Comment vous arrivez à créer?
J'essaie d'avoir un panel de bruits ou de sons fabriqués avec une guitare électrique et des jouets ou des ustensiles le soir chez moi.
Ok, à peu près.
Oui, oui.
Je
suis toujours curieux de trouver des sons nouveaux, donc je m'enferme, j'ai un studio, je m'enferme le soir en volant, entre guillemets, les objets à mes enfants, par exemple, ou à ma femme, ou aux amis, et je triture les sons, j'essaie, je mets en boucle, et j'essaie d'obtenir de nouveaux sons, de nouvelles couleurs.
Et comment vous faites pour les sons que vous créez soient s'adaptent avec la pièce? Est-ce que on...
Ouais, c'est de longues semaines de travail là en particulier avec cette compagnie Rasga,
mm-hmm,
qui nous a demandé des semaines de travail. Bon, en général, on commence par le sens de la pièce et le scénario à définir, et en particulier, on me demande en général des couleurs, alors que ce soit la plénitude, l'inquiétude. Le neutre, et moi j'essaie de sortir ces sentiments, ces couleurs avec des compagnies de danse, des compagnies de théâtre, voilà.
Mm-hmm. Il faut bien connaître les bruits, les sons pour...
Oui, c'est un métier.
Oui, hein?
Oui,
comment vous avez développé, pour en faire un métier, comment vous avez développé cet art?
J'ai commencé de manière tout à fait conventionnelle avec des groupes de rock de manière amateur. Au fur et à mesure de me cultiver et d'aller en dehors des sentiers battus, j'ai découvert l'univers de John Cage, etc. Et depuis, j'essaie de fabriquer des couleurs, quoi, du son.
Et vous avez cité Johnny Cage.
Cage,
okay,
qui est l'américain, compositeur américain de musique contemporaine.
Oh, ok. Est-ce que vous travaillez